I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Lorsque Roxane découvre sa première grossesse, elle est déjà bien avancée de quelques mois. Une fois la surprise passée, elle laisse rapidement place à la joie de devenir maman et comme toutes les femmes enceintes, elle se projette et prépare l'arrivée de son bébé. N'ayant pas pu faire le dépistage pour la trisomie, c'est seulement lors de l'échographie du deuxième trimestre que le doute s'installe. Après analyse du DPNI et de l'amyosynthèse, les résultats confirment qu'il y a bien une anomalie chromosomique et une malformation cardiaque. À plus de 6 mois de grossesse, alors qu'elle sent son bébé bouger au creux de son ventre, Roxane doit décider si elle poursuit cette grossesse ou si elle y met fin. Après réflexion et beaucoup de larmes, la décision est prise, elle procède à une interruption médicalisée de grossesse et accouche de son petit garçon né sans vie. Une épreuve qui la marquera pour toujours et dont elle peine à se relever. Mais la vie pointe son nez de nouveau quelques mois plus tard lorsqu'elle découvre sa deuxième grossesse. Avec beaucoup d'angoisse et une surveillance rapprochée, Roxane rencontre sa fille et l'émotion est palpable. Elle est la maman de 2 enfants, un petit garçon dans les étoiles et une petite fille sur Terre. Bonne écoute.
Bonjour Roxane.
Bonjour Shane.
Merci de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci d'avoir accepté que je la raconte.
Avec grand plaisir. Alors, on va revenir au tout début. Toi, quand tu étais plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité? Est-ce que tu as toujours voulu des enfants ou pas du tout? C'est venu sur le tard?
J'ai pas forcément de souvenir de m'être dit je serais forcément maman ou quoi que ce soit. Je pense que c'était dans le schéma un peu classique. Après, j'ai pas de souvenir de me dire « Ah là, j'ai envie d'être maman » ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est venu avec mon mari une fois qu'on a été tous les deux bien dans nos travails. On s'est dit « Ah tiens, maintenant on va essayer de faire des enfants. » On n'avait jamais dit en tout cas qu'on n'en voulait pas ou quoi que ce soit.
Et alors, tu avais quel âge quand vous avez pris cette décision?
Alors, j'avais 25, ouais. 26 ans. Voilà, on a décidé d'essayer de faire un enfant et je suis tout de suite tombée enceinte. Ouais. Mais je n'ai pas su tout de suite parce que les premiers mois, j'ai eu mes règles pendant ouais. ma grossesse. Donc, j'ai découvert ma grossesse à la toute fin du premier trimestre.
Parce que, ah oui, d'accord.
Du coup, là, j'avais plus mes règles et j'étais très fatiguée. Et j'avais mis la fatigue sur le compte du travail, ce qui était possible, sur le compte du déménagement, parce qu'on déménageait à ce moment-là. Et là, donc, je vois pas mes règles arriver. Donc, je me dis, bon, on va faire un petit test de grossesse. Et là, tout de suite, brillé. Il était positif. Et du coup, là, on a commencé à prendre rendez-vous chez le médecin, tout ça. Voilà. Et donc, petite surprise, on fait une échographie et on voit déjà, en fait, le bébé, puisqu'on était à la fin du premier trimestre.
D'accord. Et alors, comment t'as accueilli cette nouvelle, toi?
Ah bah, le choc. le choc de voir déjà un bébé à l'écran avec des mains, des pieds, la tête. Enfin, l'échographie, en plus, c'est celle où tu le vois vraiment en entier sur l'écran. Donc, on était totalement un peu abasourdi. Et heureusement, on avait une très très bonne gynécologue. Elle nous a tout de suite rassurés. Elle a dit que ça arrivait, qu'en plus, vu que j'avais eu mes règles, il n'y avait pas à culpabiliser de quoi que ce soit. J'avais pas d'autres symptômes, en fait. J'ai jamais eu de nausées, j'ai jamais eu juste la fatigue. Mais voilà, la fatigue, un peu comme tout le monde, tu peux la mettre sur le compte d'autre chose. Et donc, bah, de là, on a dit, bon, bah, on commence le suivi, on a fait tous les papiers, déclaration de grossesse, etc. Et on a tout de suite parlé pour, bah, du coup, les examens que j'avais pas pu faire et où on se retrouvait hors délai. Donc, on a dit, bah, on avance comme ça. Et s'il y a quelque chose, c'était dans un cabinet de ville. Et donc, s'il y a quelque chose, on m'enverrait à l'hôpital, du coup, référent de la région où on habite.
Parce que là, c'était tous les examens, diabète gestationnel,
Non, trisomie. Ça, j'y étais pas encore non plus. Donc, trisomie, on n'avait pas pu le faire. Et après, sinon, tout le reste, j'ai tout fait. J'ai fait une énorme prise de sang. Voilà. Et on a à peu près daté la grossesse. Et voilà. Ouais. Et c'était parti. Et après, j'avais un petit suivi, du coup, tous les mois avec elle. Et elle me faisait du coup des échographies pour essayer de, au fur et à mesure, du coup, de dater le plus précisément possible la grossesse. C'est ça qui était un petit peu embêtant, c'était qu'elle pouvait dater qu'avec la taille du bébé. Et donc, puisque j'avais eu mes règles, ou en tout cas des règles anniversaires, bah, on n'était pas tout à fait sûr de la date des dernières règles. Et donc, on datait par rapport aux mesures. Et à chaque fois, elle remesurait pour se rapprocher le plus possible de ce qui lui semblait correct, en tout cas en termes de date, par rapport à la taille du bébé, etc.
Voilà. Comment tu l'as vécu, toi, le fait de rater, entre guillemets, ce premier trimestre ?
Il y a un côté, moi, qui était soulagée parce que je me suis dit, bah, au moins, tu sais, exit tout ce qui est peur de la fausse couche, etc. Hein, on était déjà passé. Voilà. Et puis, bah, après, très bien. Enfin, j'ai tout de suite eu mon ventre, du coup, qui est sorti d'un coup, d'un seul. Et puis, bah, après, on a commencé tout de suite à se projeter. On l'a annoncé à nos familles. Et voilà, et puis on a commencé à regarder un peu ce qu'il faudrait acheter, ce qu'il faudrait faire, comment on allait s'organiser, etc. Et voilà, du coup, on était contents, un peu abasourdis, mais très contents.
Vous avez connu le sexe aussi assez tôt ?
Oui, je sais pas si du vous avez coup, assez ça. Vite, on a su
enfin,
que c'était, on a su que c'était un petit garçon. Alors, moi, j'étais un tout petit peu déçue parce que je m'étais plutôt projetée sur une petite fille. Et puis après, je m'y suis fait. Puis tout le monde était ravi parce que dans ma famille, il n'y a que des filles. Alors du coup, tout le monde était ravi que ce soit un petit garçon. Et puis après, voilà, je m'y suis faite. On avait déjà le prénom. C'est quelque chose de, quand on s'était dit, tiens, on essaierait bien de faire des enfants. On avait déjà trouvé un prénom garçon, un prénom fille.
D'accord.
Donc on avait déjà son petit prénom. Et non, on était contents tous les deux. Ben, mon mari était ravi que ce soit un petit garçon. Donc voilà, et puis on a continué comme ça, le petit bonhomme de chemin, à faire les examens. Et voilà, et commencer tout doucement à réfléchir, à préparer son arrivée, qui était prévue du coup pour Noël.
D'accord. Et donc là, tu disais, tu avais des examens plus réguliers ?
Oui, du coup, dès que j'ai... dû faire, or ça remonte un peu maintenant, c'était il y a 4 ans, mais j'ai dû faire, même un peu plus du coup, j'ai dû revenir je pense 2 ou 3 semaines à peine après avoir vu la première fois la gynécologue pour refaire une échographie, en tout cas pour rattraper les échographies que j'avais pas faites. Et donc, à chaque fois, elle notait. Et à un moment donné, donc là, l'été se passe. Enfin, l'été, tout allait bien. L'été se passe. Et on arrive à la fin de l'été. Et donc, j'y vais pour faire l'échographie du second trimestre. Donc, de morphologie. Et donc, en plus, je me souviens, il gigotait dans tous les sens. Elle avait du mal à prendre les mesures.
Ouais.
Et donc, elle commence à prendre les mesures. Et puis, à la fin, elle nous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Le fémur est un peu petit par rapport à la datation qu'on estime de la grossesse. Mais comme on n'est pas totalement sûr non plus de cette datation du fait... du premier trimestre qui était un petit peu loupé, je vous conseille d'aller à l'hôpital, du coup, refaire des échographies là-bas. Ils ont des appareils plus performants et ils sauront mieux dater, voir si finalement on ne s'est pas trompé simplement dans les dates ou s'il y a autre chose et qu'il faut faire des examens un peu plus poussés. Donc bah là, c'est quand même une inquiétude, donc on prend les rendez-vous. Ah oui, et entre-temps, du coup, elle nous parle de faire une prise de sang qui s'appelle le DPNI. Et à l'époque, le DPNI venait juste de je sais pas s'il venait juste de sortir, ou en tout cas, c'était assez nouveau encore. Mmh. Et ça nous permettait de rattraper l'examen de la trisomie. Et du coup, dans notre cas, il était pris en charge, puisque j'avais pas pu faire le premier examen. Donc, je prends le rendez-vous à l'hôpital. Entre-temps, je fais aussi la prise de sang pour le DPNI. Et ça se voyait que le labo était pas du tout habitué à ce type de prise de sang. Il comprenait pas les papiers, il comprenait rien. J'ai dû tout re-raconter. Ah oui. Et donc, quand on va à l'hôpital faire l'échographie, donc voilà, il regarde... Hop, tout va bien, ça va. Le petit fémur, bon, le fémur est petit. Et donc, il voit aussi une malformation au niveau du cœur. Et ils me disent, mais bon, vous inquiétez pas, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais du fait qu'on a du coup des examens loupés, etc., on vous propose de faire une amniosynthèse.
D'accord.
Donc, arrivé, moi je venais pour une échographie, je suis pas ressortie tout de suite, mais on me dit, si vous voulez, on la fait maintenant.
Ah oui.
Oui. Donc Là, j'étais là, oui, d'accord, mais pourquoi, comment, enfin, donc on me dit, voilà, mais c'est juste pour qu'on se rassure, parce que, bon, vraiment, tout va bien, regardez, votre bébé, il a un profil parfait. Je dis, bon, allons-y, hein, on est là, on va pas non plus attendre. Hein. Et là, c'est un peu urgent, c'est à 10 personnes qui rentrent pour tout installer pour la myosynthèse. Et puis, bon, moi, dans mon imaginaire, en plus, la myosynthèse, je me suis dit, mais je vais avoir mal. Ça va être horrible. Je voyais déjà la grande aiguille.
Ouais.
Je me suis dit, oh, l'horreur. Donc, je m'installe et tout pour faire ça. Alors, détendez-vous, madame, détendez-vous. Oui, bien, je vais essayer de me détendre, mais c'est pas évident, quoi. Alors, j'ai quand même fait deux petits malaises sur la table avant qu'ils puissent me faire la myosynthèse. Déjà, à force d'être allongée sur le dos, moi, c'est une position que j'ai jamais pu tenir enceinte, donc parce que ça me comprimait la veine cave. Donc, puis je partais. Donc, hop, on se met sur le côté. Mais bon, il va falloir se remettre sur le dos pour la myosynthèse. Donc, laissez-moi juste reprendre mon souffle, quoi, parce que je viens pour une échographie et je vais ressortir en ayant fait une myosynthèse. Enfin, c'est quand même pas... J'étais pas préparée à faire ça. Mmh. On arrive à se détendre. Je me souviens, je sais pas si c'était une infirmière ou une aide-soignante. Elle m'a fait un petit peu d'hypnose, tu sais. Elle était à la tête et puis elle me racontait elle me disait des paroles rassurantes, etc., pour me détendre. Et du coup, donc, je finis par me détendre. Ils me font la piqûre. Alors, un sentiment vraiment... J'ai tout senti. Hein. Enfin, j'ai pas regardé. J'ai fermé les yeux. Mon mari, lui, l'a regardé. Il m'a dit une aiguille immense. Ouais. Et puis, alors, c'est pas un tout petit peu de liquide hein, qui te prennent. Il m'a dit que c'était deux gros flacons énormes. Et alors, j'ai senti l'aiguille passer vraiment toutes les barrières, tu vois, de ma peau, de mes muscles. Et il m'avait prévenu que quand ça percerait au niveau de l'utérus, ça me ferait une contraction. J'ai senti la contraction et un sentiment de froid. Tu vois, j'ai senti l'aiguille froide qui s'est infiltré vraiment en moi. Après, ils l'ont fait. Ils ont retiré l'aiguille. Et c'était fini.
Donc, ça a pris combien de temps ?
Pas longtemps. Mais c'est tout le choc avant, autour, qui a fait durer le truc très longtemps, par contre. Mmh. Mais honnêtement, ça a dû prendre même pas 5 minutes. Hein. C'était très précis. Je pense qu'ils sont habitués. C'était vraiment très précis. Juste, madame, ne bougez pas. Et voilà, ils le font sous contrôle d'échographie hein, pour être sûr de pas aller là où il faut pas. Mmh. Et voilà. Après, hop, petit pansement, au repos 48 heures. Et on me dit, ensuite, il faut attendre les résultats.
Donc là, vous repartez...
On repart de chez nous, mais avec quand même... on repart chez nous et puis on n'est quand même pas très bien. On se dit, mince, qu'est-ce qui va se passer maintenant, quoi. Alors, on essaye quand même de pas trop y penser. On a prévenu nos familles qu'on a fait cet examen-là. On leur a dit tout ce que les médecins nous ont dit, qui était quand même très rassurant. Hein. Le médecin était très rassurant. Donc voilà, donc on s'est dit, bon, bah, ça se trouve, ça va juste dire que tout va bien.
Parce que les résultats, ils mettent un petit temps aussi à arriver.
Alors, ils mettent un petit temps. Normalement, on nous avait dit 3 semaines.
Oui, voilà.
À attendre. Et en fait, le médecin sur qui on est tombé était vraiment exceptionnel. Et lui, il a fait accélérer les choses. Et du coup, on n'a pas attendu 3 semaines. Je ne sais plus combien, au moins une semaine, une bonne semaine, c'est sûr. Peut-être une semaine, 10 jours. Il a fait en sorte qu'on ait les résultats rapidement.
Alors, comment se passe cette semaine d'attente
? En fait, en plus, entre-temps, on avait eu le résultat de la DPNI.
Ah oui.
Qui ne te dit pas s'il y a une atteinte ou quoi, mais qui te donne une probabilité, comme l'examen classique. Et donc, ma gynécologue me rappelle, me dit, voilà, j'ai eu le résultat de la DPNI, la probabilité n'est pas très bonne, je ne me souviens plus du ratio. Et elle me dit, si vous n'avez pas déjà fait l'examen à l'hôpital, quand vous y allez, appelez pour demander à faire une amniosynthèse. Et déjà, je lui ai dit, c'est bon, c'est déjà fait. Donc, tout s'était un peu télescopé, tu vois. Donc, elle me dit, maintenant, on attend. Et donc on attend les résultats et donc un jour on m'appelle et on me dit voilà il faut venir à l'hôpital du coup pour la remise des résultats. Et là je me suis déjà dit si déjà ils me disent rien par téléphone, j'avais pas un très bon pressentiment. Donc on y va, on attend et on vient nous chercher et là donc on revoit le même médecin qui m'avait fait l'échographie et la myosynthèse accompagné, je crois, d'une sage-femme. Et je me dis, oh, s'il y en a deux, c'est pas bon.
Ouais.
Et donc, on y va. Et là, donc, il nous annonce, du coup, que, en nous donnant la feuille, que notre bébé est atteint de trisomie 21. Et là, je me rappelle, on était tous les deux là, dans le bureau, à se serrer la main. Mon mari l'a fondu en larmes. Moi, j'étais un peu abasourdie, j'y croyais pas trop. Donc, j'ai arraché la feuille des mains du docteur pour regarder moi-même écrit noir sur blanc.
Ouais.
Et ils nous ont laissé un petit peu, ils sont sortis de la pièce, ils nous ont laissé tous les deux. Donc, je savais, comment je le savais, je sais pas, mais je savais qu'on allait nous proposer de soit poursuivre la grossesse, soit de l'interrompre.
Vous en aviez parlé avec ton mari avant l'attente des résultats ?
Un petit peu.
Ouais.
Moi, j'avais dit que je ne me sentirais pas forcément capable de garder le bébé s'il y avait une trisomie.
Mmh.
Donc, il y a plusieurs sortes de trisomies. Il y a la 13, la 18 et la 21. La 13 et la 18... J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que la question pour celle-ci ne se pose pas parce que c'est des trisomies qui font que le bébé n'est de toute façon pas viable. Et la 21, du coup, tu peux vivre avec. Mais c'est ce qu'on nous a expliqué ensuite. En fait, ce jour-là, on a vu un pédiatre de l'hôpital. Et il nous a dit, donc actuellement, donc il y a la malformation au cœur qui avait été vue du coup à l'échographie, certainement le retard de croissance. Et après, on ne sait pas. Et après, il peut y avoir des atteintes au niveau de la sphère digestive, donc estomac, intestin, etc. Un retard mental, un retard après dans les apprentissages, dans la marche, dans tout ça. Alors, autant le médecin et la sage-femme, ils nous ont jamais fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ils nous ont juste expliqué les choses. Autant la pédiatre, j'avais le sentiment qu'elle voulait essayer de me convaincre qu'on pouvait tout à fait poursuivre, etc. Et donc, on la voit rapidement. Et puis, ils nous disent surtout, n'allez pas sur Internet. Bon, évidemment, moi, je suis allée sur Internet. Hein, je pense que tout le monde le fait. Donc mais très peu, j'y suis très très peu allée, j'ai regardé un seul site internet qui me paraissait le plus correct. Et donc voilà, on est rentré chez nous très 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 mal, on a pleuré.
Parce que là, Là, t'es à combien de mois
du coup? Là, je suis au début du sixième mois.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Et donc, je sentais mon bébé bouger. Enfin, on avait déjà commencé à acheter quelques petits vêtements. Voilà, on avait commencé à aménager un tout petit peu la chambre, pas entièrement du tout, mais tu vois, on avait juste acheté une commode, on avait mis les quelques body et quelques t-shirts qu'on avait achetés dedans. On avait acheté un couffin. En plus, ça nous avait pris du temps, tout ça, parce qu'on avait tout acheté de seconde main et tout. Donc, on avait, tu vois, passé du temps à chercher, à aller chercher ensuite les affaires, etc. Ouais. Et donc, on a juste envoyé un message à nos familles et après, on a tout coupé. Couper tous nos téléphones.
Ouais.
Et on voulait surtout pas qu'on nous appelle parce qu'on voulait pas que... En fait, on voulait réfléchir que tous les deux. Alors, je crois que mon mari était en vacances, donc en plus, on n'avait pas besoin de... Enfin, il n'avait pas besoin de prendre des jours, je sais plus trop. Et là, c'était horrible. On a passé toute la journée, toute la nuit à pleurer.
Ouais.
À pleurer. Et à se demander ce qu'on allait faire. Et moi, je lui ai dit que moi, je... Enfin, comme ça, mon premier sentiment, c'était d'interrompre la grossesse. Et en même temps, c'est horrible parce que bah, tu sens ton bébé, il est là, enfin, tu l'aimes. Tu te dis, bah, enfin, c'est peut-être les derniers moments que je vis avec lui. Et mon mari, lui, il n'était pas totalement ni pour l'une ni pour l'autre solution. Il ne savait pas trop... il était à temps, on va réfléchir, on va regarder. Et alors moi, je lui ai dit, mais de toute façon, ça va être très compliqué. Je veux dire, ça va être... ça va être des... il ne pourra pas aller à l'école normalement. Il faudra lui trouver des centres pour qu'il puisse ensuite y être. Il faudra faire des... suivi chez tel spécialiste tout le temps. Enfin, alors je me souviens plus tellement de notre cheminement de pensée. Je me souviens qu'on a énormément pleuré, qu'on était vraiment au 36e dessous, et que pendant au moins une semaine, on est allé tous les jours à l'hôpital pour voir les médecins.
Et pour échanger avec eux.
Oui, discuter avec eux. On a quand même pris notre décision assez rapidement et donc on a décidé d'interrompre la grossesse. Et donc quand c'est comme ça, bah, tu choisis la date d'interruption. Et alors en fait, on te dit, vous pouvez choisir la date que vous voulez. La seule chose, c'est qu'on ne vous permettra pas d'aller au terme. Donc il faut choisir une date entre là et le 9e mois de grossesse. Entre-temps, du moment où on a pris la décision, ça passe dans une commission. Et la trisomie 21, en fait, elle est dans la loi. Elle est reconnue comme une maladie grave et incurable. Et c'est ce qui te donne le droit, du coup, d'interrompre la grossesse. Et la commission, du coup, l'accepte. Voilà.
Et tu disais que vous étiez allé voir, enfin vous étiez retourné tous les jours à l'hôpital pour discuter. Est-ce que vous avez pu échanger aussi avec des parents d'enfants atteints de trisomie ou
non,
d'autres parents
ça,
qui avaient choisi
Non, on n'a pas pu et on a juste vu la pédiatre qui nous a expliqué un petit peu, mais enfin qui t'explique sans trop t'expliquer parce qu'au final, ce qui peut se passer sur ton enfant, on ne peut pas le savoir tant qu'il n'est pas là. Donc, on ne peut pas savoir quelles seront ses atteintes et on ne peut pas savoir comment la trisomie va s'exprimer chez ton enfant. Tant qu'il n'est pas là et tant que tu ne le vois pas grandir au fur et à mesure. Et nous, on savait qu'il avait du coup une malformation au cœur et que ça serait déjà dit... en fait, il faudrait déjà au moins l'opérer du cœur pour cette malformation. Et on savait qu'il avait le retard de croissance et après, le reste, eh ben, on ne pouvait pas nous dire comment ça allait l'atteindre. Voilà.
D'accord.
Et donc, du moment où on a dit on veut faire l'interruption de grossesse, et bah là, tu rencontres une sage-femme cadre et avec elle, tu organises tout. Et pendant le temps, en fait, y a une semaine de délai. Et en fait, pendant cette semaine, c'est le temps que la commission se fasse, mais tu commences déjà à organiser du coup avec elle parce qu'on savait que ce serait accepté puisque la trisomie 21, elle rentre dans ce cadre légal de l'IMG. Il n'y a pas de débat, du coup, entre les médecins pour dire est-ce que c'est profitable ou pas profitable à l'enfant. Et j'avais fait des recherches, moi, après, et il y a peu de cas comme ça où la loi, elle est claire et nette. Pour d'autres situations, ce serait des débats entre les médecins et la famille, et enfin à décider en fait oui ou non.
D'accord.
Voilà. Et donc avec la sage-femme, et t'organises tout ça et elle t'explique comment ça va se passer. Le médecin aussi t'explique. En fait, c'est horrible parce qu'au lieu de préparer, sa naissance, enfin, tu prépares sa naissance, mais tu sais qu'il sera mort, qu'il sera né sans vie. Tu choisis pas son berceau, tu choisis son cercueil, voilà. Et tu fais tout ça, en fait, pendant la semaine. Et on est vraiment tombé sur, par contre, tu vois, des médecins et des sages-femmes qui étaient vraiment très très bien. Je pense qu'on s'en serait pas sorti pareil si on n'était pas tombé sur du personnel médical aussi bienveillant. Ils étaient vraiment, vraiment très, très bien. Et d'ailleurs, quand on a donc décidé qu'on allait faire l'IMG, le médecin qui m'avait fait l'échographie et qui m'avait fait l'annonce synthèse et l'annonce des résultats, il nous a dit « Moi, je vous laisse pas tomber. Je serai avec vous, peu importe ce que vous décidez. Et c'est moi qui continuerai le suivi. » Et donc, quand on lui a dit qu'on avait décidé d'interrompre, il a dit « Ce sera moi. Ce sera moi qui ferai l'interruption de grossesse. »
Oui, rassurant du coup.
Oui. Et alors, j'explique du coup peut-être pour ceux qui ne savent pas. Donc en fait, pour l'interruption de grossesse, ça se fait sous échographie. Et c'est comme pour la myosynthèse. Ils injectent d'abord un produit dans le cordon ombilical qui va endormir le bébé, l'anesthésier, comme une anesthésie générale quand on se fait opérer. Et après, une fois qu'il est endormi, en fait, c'est pour pas qu'il souffre. Ils injectent une drogue dans le cordon qui permet d'arrêter le cœur. Voilà. Et après, tu montes en salle d'accouchement, il faut accoucher.
Voilà. Entre le moment où vous avez pris la décision de faire l'IMG et ce jour-là où ça se passe, il y a eu combien de temps ?
Pas très longtemps. Je pense 10 jours au maximum. Parce que, donc comme on a pu choisir la date, mais moi je ne me voyais pas non plus rester des mois comme ça. Enfin, je ne pouvais pas me dire, je vais choisir, allez hop, dans 2 mois. Non, parce qu'en attendant, t'es avec ton bébé, il boule. Enfin voilà, il faut continuer à vivre. Et donc on a choisi une date assez. Plus proche qu'ils pouvaient nous proposer pour pouvoir. Moi, je voulais pas rester un temps infini comme ça, en fait. Je sentais boucher. Voilà, on lui parlait, alors on lui a tout expliqué. On lui a tout expliqué.
Vous avez eu des phases de doute où une fois que
non,
la décision a été prise.
Une fois que la décision a été prise, elle était prise et vraiment le temps a filé très vite en fait. Donc on n'a pas douté. Après c'est sûr qu'on n'y est pas du tout allé de gaieté de cœur. Hein. Enfin c'était pas.
Bien sûr.
Tu vois ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé on n'y est pas du tout allé. Moi j'avais très très peur d'accoucher. J'avais très très peur du moment même de l'IMG. Je me suis dit que j'allais mourir avec lui ce jour-là. Enfin, comment c'était possible? Comment j'allais pouvoir survivre à ça en fait? Comment j'allais pouvoir continuer alors que lui ne serait plus là? Et donc avec la sage-femme CAD justement, tu organises tout ça. Et donc on a pu exprimer des souhaits pour ce jour-là. Donc on a demandé à être quelques minutes tout seul avant qu'il fasse le geste. Et on a demandé, en fait elle nous a expliqué qu'après Eux, ils prenaient des photos, qu'on pouvait voir ou pas voir notre bébé, qu'on n'était pas obligé de se décider maintenant, qu'on pourrait se décider le jour même, etc. Qu'ils nous feraient des petites empreintes. Du coup, nous, on avait aussi rapporté des affaires. On voulait qu'ils mettent... voilà, qu'il y ait des petites affaires qui aillent avec lui. Donc, du coup, on avait rapporté un petit pyjama, on lui a écrit des lettres. Alors, on a aussi... donner des lettres. Il y a des choses que je leur ai données moi à l'hôpital pour qu'ils me les mettent dans la boîte souvenir. En fait, quand c'est comme ça, tu repars avec une petite boîte souvenir et dans cette boîte, il y a justement les empreintes, les photos. Et moi, j'avais mis dedans les photos d'échographie. Enfin, j'avais demandé à ce qu'ils les mettent. J'avais mis un exemplaire aussi des lettres, on les avait écrites en double. On lui avait inventé une petite berceuse, alors du coup on avait mis un exemplaire de la berceuse dans la boîte, etc. Et voilà, donc tu fais tout ça et elle t'explique comment ça va se dérouler aussi ensuite pour l'accouchement. Et je sais, ça c'est quelque chose où on m'a beaucoup posé la question autour de moi. En fait, dans ces cas-là, ils préfèrent que tu accouches naturellement parce qu'il ne faut pas traumatiser... l'utérus, avec une cicatrice de césarienne par exemple. Et elles nous ont expliqué également que pour nous aider en fait dans le processus du deuil, ça a été montré que du coup de vivre réellement l'accouchement, ça aide énormément à aller mieux ensuite. Et avec le recul, c'est sûr, ouais. Que oui. Et alors sur le moment ça paraît horrible, enfin déjà moi j'étais déjà pas très fan de me dire va falloir que j'accouche à un moment donné, et alors là dans ces conditions là c'était juste horrible de me dire que j'allais devoir accoucher, et finalement j'étais contente et j'en ai pas du tout de mauvais souvenirs en fait, j'ai un bon souvenir de cet accouchement, enfin c'est une journée qui est vraiment très ambivalente, c'est la plus triste et la plus dure journée de toute ma vie. Et en même temps, c'est aussi une belle journée parce qu'on a pu voir notre fils.
Donc vous l'avez vu
Oui, finalement, on a décidé de le voir ensuite. Pas tout de suite sur le moment, mais après, oui, on a décidé de le voir. Et c'était un très, très, très beau moment. Et je remercierai jamais assez la sage-femme qui s'occupait de nous pour l'accouchement. Elle était là que pour nous. Et on n'avait que cette personne qui venait nous voir dans la chambre. Et c'est elle qui nous a apporté notre fils. Du coup, il était dans ses bras, tout emmailloté dans une petite couverture en laine, tu vois. Vraiment, c'était très, très beau. Il y avait un grand soleil. Honnêtement, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance, tu vois. Donc, j'ai été hospitalisée la veille. Et j'étais hospitalisée du coup dans le service des grossesses pathologiques pour pas que j'entende de bébé.
Ah oui, très bien.
Alors le seul petit choc, c'est qu'au moment, donc on arrive dans la chambre et il y avait le petit berceau qui était là. Alors la sage-femme, elle l'a vite enlevé, mais bon, on l'a vu. Mais voilà, sinon la nuit d'avant, j'ai rien entendu, j'ai jamais entendu de bébé ou quoi que ce soit. Bon, c'est une nuit où on n'a pas du tout dormi, hein, parce qu'on est arrivé là, on voulait en profiter au maximum en fait. Et le matin, on est arrivé, ils sont venus nous chercher très tôt, parce que ça se passait dans le service des échographies, et donc avant qu'il y ait toutes les consultations. Donc pour pas que tu croises de femme enceinte. Et ils sont venus nous chercher, et le médecin nous a dit après, j'ai vu vos têtes, je me suis dit qu'on n'allait jamais y arriver en fait, parce c'est qu'on vrai. Était très très mal. Bon, je ne sais pas quelle tête on devait avoir, mais ça devait être horrible.
Oui.
Et donc, arrivé là, ils nous ont installé tout ça. Et donc, on avait demandé à ce qu'ils nous laissent 5 minutes tout seuls. Donc, du coup, ils nous ont laissé 5 minutes et on lui a chanté la petite berceuse qu'on avait inventée. Après, il te demande si tu veux regarder l'écran d'échographie pendant le geste. Donc, moi, je n'ai pas voulu. Et je ne sais pas comment j'ai fait. Mais alors il y avait la même infirmière ou assistante qui était là et tu sais qui m'avait fait un peu d'hypnose pour la myosynthèse, elle était là aussi. Et elle m'a refait un petit peu d'hypnose ou je ne sais quoi, mais ça m'a aidée. Et donc au moment où le médecin est revenu, parce que voilà, il fallait procéder à l'IMG. Et là, j'ai réussi à me détendre. Et je me suis dit, en fait, je veux pas que mon bébé sente que je suis pas bien. Et je veux qu'il parte sereinement. Mmh. J'ai le sentiment, du coup, tu vois, de... C'est comme si, dans mes souvenirs, je voyais cette scène en étant, tu sais, au-dessus de moi. Et je sais qu'à ce moment-là, je me suis envoyée très très loin pour être le plus sereine possible. Et donc, ne pas bouger. Et être le plus sereine. Et je l'ai senti bouger jusqu'au bout. Mmh. Et après, tu sens plus rien bouger. Et les médecins, même si je pense qu'ils sont habitués à faire ça, je pense que c'est quand même pas quelque chose qui font guetter de cœur non plus. Et ça se passe très vite. Hein. Tu n'attends pas des heures comme ça. Ça se passe très vite. Et voilà. Et après, le médecin nous a dit, maintenant, on va vous monter en salle d'accouchement. Et donc, il t'explique, maintenant, on va attendre déjà que... Parce que du coup, pour ça, là, j'avais eu, je pense, une petite anesthésie locale pour pas sentir l'aiguille. Et donc, le temps, je pense que ça fasse plus effet. Et après, on te donne, du coup, des médicaments pour déclencher l'accouchement. Et donc, il nous dit, moi, j'ai des consultations à faire. Mais une fois que j'ai fini mes consultations... Je monte en salle de travail et d'accouchement et si vous n'avez pas encore accouché, c'est moi qui ferai votre accouchement. Donc tu vois, vraiment, il nous a suivis jusqu'au bout.
Ouais. Et là, ça prend combien de temps jusqu'à l'accouchement ?
Je ne saurais plus te dire exactement le nombre d'heures que ça a pris, mais l'IMG, c'était au tout petit matin et moi, j'ai accouché à 15h. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais je ne saurais pas après dire le laps de temps vraiment que ça a pris. J'ai eu la péridurale pour ça, qui n'a pas du tout fait effet. En fait, on m'a posé la péridurale et vraiment peu de temps après, j'ai accouché. Donc, ça ne m'avait même pas engourdi les jambes.
Ah oui, d'accord.
Donc, voilà. En fait, par contre, tu vois, vraiment, comme pour un accouchement normal, c'est moi qui avais le choix de tout. Donc, tant que j'avais pas si mal que ça, j'ai juste demandé à avoir des doliprane. Et puis après, on m'avait dit, de toute façon, si vous avez envie de la péridurale, on vous la mettra à tout moment. Et quand j'ai demandé... Là, par contre, c'était dur parce que mon mari a dû sortir de la chambre. Et je me suis retrouvée toute seule avec la sage-femme, sans mon mari. Et c'était très, très, très long. Et puis, comme pour un accouchement, en fait, il faut qu'il pique au moment où t'as pas la contraction. Donc, il faut dire, j'ai une contraction, mais moi, tu penses bien, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Enfin, vraiment pas facile. Heureusement, il y avait la sage-femme qui était là. Et du coup, il a dû sortir. Après, il est revenu et je pense que 20 minutes après, même pas, j'avais accouché, en fait. Et je sais que la péridurale, elle n'a pas fait effet. J'avais à peine le pied engourdi. Ça, c'était très rapide. Et au moment où j'ai accouché, elle nous a demandé si on voulait le voir à ce moment-là. Donc là, j'ai dit non. Et d'ailleurs, j'ai fermé les yeux tout le long des poussées. Après, c'était un petit bébé, donc je n'ai pas eu besoin de pousser énormément, etc. Pas comme pour un bébé... Enfin, à terme, tu vois, qui fait 3 kilos. Et voilà. Et après, on a attendu un petit peu. Après, on lui a demandé à le voir. Et du coup, là, elle nous l'a ramené. Là, ce moment-là, c'était le très dur parce que autant j'avais pas du tout de la journée entendu d'autres femmes ou de bébés. Par contre, au moment où elle nous l'a apporté, c'est vraiment, les deux moments ont coïncidé. Elle nous a apporté notre fils et au même moment, dans la salle à côté, il y a un bébé qui est né et qui a pleuré. Oui. Et ça, c'était dur. Et d'ailleurs, on a entendu la sage-femme au moment où elle est entrée dans notre chambre. Elle a dit à sa collègue, oh mince. Tu vois, mais il ne pouvait pas non plus prévoir, c'est normal. Après, on a vu notre fils, donc ça a éclipsé ce moment-là. Il était tout beau, il avait l'air tout serein, tout petit, on m'y touffait dans ses couvertures. Et voilà, c'était un très très beau moment, donc on lui a parlé. Là, sa femme allait rester avec nous, on lui a demandé si elle pouvait rester. Et voilà, on lui a parlé, on lui a fait des promesses. Et puis bah, après, on a dit, c'est bon, vous pouvez y aller. En fait, moi, j'avais peur que si on attendait trop longtemps, de jamais vouloir le rendre. Mmh. Donc après, on a passé la nuit à l'hôpital. Le médecin est revenu nous voir. Il était très surpris que j'ai déjà accouché. Et je me souviens, il nous a dit « Mais madame, vous aviez déjà accouché ?» Il était un peu comme déçu, tu vois, il aurait voulu être là vraiment pour ce moment-là. Et on a discuté avec lui, il nous a dit « C'est la seule personne qui nous a dit « Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres choses belles qui vont arriver par la suite. » Et c'est d'autres personnes m'ont dit ça, mais j'ai toujours mal pris. Mais de lui, je l'ai bien pris, tu vois. De lui, je me suis dit, il sait de quoi il parle.
Il t'ouvrait une petite porte vers l'après, quoi.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et voilà. Et donc, après, on a passé la nuit. J'ai ma gynécologue de ville aussi qui est venue me voir à l'hôpital. Mmh. Et du coup, après, on est rentrés chez nous. Et là, il faut aller aux pompes funèbres, etc.
Et oui, parce qu'après, tu as tout l'enterrement qui s'organise.
Oui. Alors, nous, on avait décidé de faire une dispersion de cendres parce qu'on n'était pas sûr de rester toute la vie dans la ville où on est actuellement. Et on s'est dit, voilà, on préférait en fait qu'ils soient dispersés pour qu'ils soient un peu partout tout autour. Et qu'on n'ait pas besoin ensuite, si on changeait de nouveau de ville, de faire des démarches pour faire déplacer le cercueil. Voilà, bah, c'est des choses auxquelles on a pensé parce que mon mari, il a un travail où il bouge beaucoup, assez régulièrement. Donc du coup, on a pensé à tout ça. Et donc on est arrivé aux pompes funèbres, en plus qui était dans notre rue. Et on y est allé et voilà, on a dit voilà, on vient de l'hôpital. Donc le nom de l'hôpital, il est assez caractéristique et donc ici, je pense qu'ils savent. Hein. D'ailleurs, l'hôpital nous avait conseillé ce pompe funèbre là. Et donc voilà, donc ils n'ont pas posé de questions. On a juste dit voilà, tel cercueil, tel truc, etc. Et on fait une dispersion et on a convenu de la date. Et voilà, donc juste très formel, etc. Et le cimetière, du coup, où il est dispersé, où on a fait la dispersion de cendres, c'est vraiment un très très bel endroit. T'as l'impression d'être dans un parc, tu vois. Il y a même un espèce d'étang ou lac au milieu, c'est très très beau. Mmh. Et donc tu fais ça au Jardin du Souvenir, il y a un petit carré de Jardin du Souvenir, et du coup c'est là. Et donc... nos mamans étaient là, elles sont venues en fait pour pas qu'on soit tout seul, et puis parce que on a dit on peut pas être tout seul de toute façon. Et donc moi j'ai accouché un lundi et les obsèques c'était le vendredi. Donc il y avait nous, nos mamans et un très très bon ami à nous qui a tout de suite dit je viens. Voilà. Donc sinon on avait convié personne en fait. Parce que voilà, de toute façon, on est très très loin de nos familles. Donc voilà, mais c'était pas plus mal que ce soit comme ça. Et moi j'avais écrit un petit discours du coup pour les obsèques. Et puis j'ai lu mon petit discours. Et après voilà, on a fait la dispersion de cendres. Alors ça m'a un petit peu interpellée, on m'avait pas prévenue. En fait, comme c'est un bébé, déjà c'était une urne minuscule, toute petite. Et en fait, c'est pas tellement... moi, j'avais l'image que tu jetais, tu vois, les cendres dans l'herbe ou quoi que ce soit. Mais en fait, non, c'est pas du tout comme ça. Et en fait, tu enterres quand même en fait, l'urne. Et on nous a expliqué ensuite, en fait, pour les bébés, il y a très très peu de cendres parce que c'est tout petit. Donc du coup c'est plutôt comme ça qu'on fait. Enfin en tout cas c'est comme ça que nous ça a été fait. Je sais pas si c'est différent autre part. Et après du coup nos mamans sont restées un petit peu avec nous une bonne semaine ou 10 jours, je sais plus. Elles nous ont aidés à faire les papiers et tout ça. Ça c'était aussi horrible. Il y a des souvenirs comme ça qui me reviennent du coup en t'en parlant. Je me souviens que mon employeur m'a appelée. pour me dire, je venais juste de leur envoyer donc les papiers pour dire que mon fils était né sans vie. Et ils m'ont appelé en me disant, on ne retrouve plus votre déclaration de grossesse. Et donc en même temps, j'ai dû leur renvoyer la déclaration de grossesse. Ils m'ont appelé, c'était le jour des obsèques ou je sais plus. Et je leur ai dit, mais moi j'étais dans un état second, et je leur ai dit, vous vous rendez compte que vous m'appelez, mais je viens de l'enterrer quoi. Enfin, non, vous me retrouvez ce papier. Donc voilà.
Il y a toute la partie administrative, et après, vous arrivez chez vous, vous rentrez à la maison aussi, il y a toute cette installation que vous aviez, le lit, tout
alors,
ça.
Alors oui, en fait, moi, j'avais clairement pas la force. Donc pendant qu'on était à l'hôpital, c'est nos mamans qui s'en sont occupées. Donc on avait décidé de donner les vêtements à une association. Donc elles sont allées donner les vêtements à l'association. Et le couffin, on a décidé de le garder parce qu'on s'est dit c'est du matériel, tu vois, on s'était pas trop projeté dedans. Les petits vêtements, par contre, voilà. Et donc on a le couffin, on l'a gardé, mais elle l'avait bien empaqueté et puis elle l'avait mis à la cave. Et donc voilà. Donc du coup, après la pièce, elle avait pas non plus été tellement investie encore. Donc du coup, ça allait de ce niveau-là. Elles se sont occupées du reste. Mais c'est sûr, enfin, rentrer, on est passé à côté. Je me souviens, on est rentré, on est directement allé dans notre chambre. Et avec notre petite boîte souvenirs, tu vois, dans les bras. Et ça, c'était un peu dur. Donc par contre, très très vite, on a donné une autre fonction à la pièce. Donc, très très vite, on a été acheter des meubles, etc. Et on a fait une chambre d'amis. Voilà. Et ah oui, c'est ça aussi que je voulais préciser. J'ai accouché à la fin du sixième mois. Et donc, du coup, mon fils, il a vraiment une existence légale. Il apparaît sur notre livret de famille. J'ai pu avoir droit à mon congé maternité. Mon mari a eu son congé paternité, etc. D'accord. Donc ça nous a fait du bien aussi. Tu vois, je me suis dit... en tout cas, aux yeux de la loi, il est reconnu.
Et alors, comment ça se passe l'après, les mois qui suivent, les années qui suivent?
Alors, moi, j'ai passé, je pense, 4 mois à pleurer sur mon canapé.
Oui.
Toute seule. Mon mari l'avait repris le travail. Moi, on venait juste d'arriver là où on est. Et moi, j'avais pas été mutée. Je suis fonctionnaire, donc j'avais pas été mutée. Donc voilà, j'étais là en congé maternité, j'attendais que le temps passe. Et j'ai contacté des associations, du coup, dont l'association Petite Émilie. Je me suis inscrite sur leur forum et je me suis mise à discuter avec des mamans qui avaient vécu la même chose que moi, qui venaient de le vivre. Et donc ça m'a aidée aussi. Je me suis dit, au moins, je ne suis pas toute seule. On a pu aussi participer à un groupe de parole qui était organisé par l'hôpital où on avait été pris en charge. Donc pareil, avec des parents qui venaient de perdre leur enfant quelques mois avant nous, ou au même moment. Donc là, on a pu rencontrer des personnes qu'on a revues après par la suite. C'est pareil, les mamans à qui j'ai parlé sur l'association, c'en est à qui je parle toujours aujourd'hui.
Ah oui.
Via les réseaux sociaux. Et voilà. Et donc, après, le temps passe. On attendait des résultats aussi par rapport à la trisomie 21. En fait, il fallait savoir si c'était, entre guillemets, la faute à pas de chance ou si mon mari ou moi avions quelque chose dans nos gènes, tu sais, qui se redonnait. Peut-être que nous, on avait un gène... un chromosome qu'on aurait pu retransmettre.
Et donc nous, on n'était pas porteurs de rien du tout. C'était la faute à pas de chance, comme les médecins disent. Et donc de là, on a pu réessayer de faire un enfant. Mais on devait d'abord attendre que j'ai mon retour de couche.
Ah oui.
Voilà, qui était assez long à venir. Et ensuite, j'ai échappé de peu à faire un curetage. Parce que j'avais des petits restes placentaires de l'accouchement. Et finalement, c'est parti avec les règles. Mais du coup, on a dû attendre un petit peu encore. Et ensuite, on a pu réessayer de faire un enfant. Et du coup, je suis retombée enceinte 6 mois après la naissance de notre petit garçon.
Et comment tu as vécu cette nouvelle grossesse? Comment tu t'es préparée à tout ça?
Alors, bah, déjà, c'est comme pour lui, je n'ai pas su tout de suite que j'étais enceinte. En fait, pour le coup, là, je surveillais vraiment très, très bien. Mais le premier mois, les tests de grossesse étaient négatifs, autant la prise de sang que les tests urinaires. Et donc, mon médecin m'avait dit d'attendre encore un petit mois et que si les règles ne se déclenchaient pas, je refaisais une prise de sang pour vérifier qu'il n'y avait pas une grossesse. Et après, sinon, je devais prendre un médicament, pardon, pour pouvoir déclencher les règles. Et donc, moi, j'étais dans un état d'esprit à me dire, c'est bon, je ne suis pas enceinte, de toute façon, je vais devoir prendre ce médicament, il n'y a plus rien qui fonctionne, etc. Et en fait, non, j'étais enceinte, donc je fais la prise de sang. Et je me rappelle, c'était vers Pâques. Et en plus, donc, le labo était fermé parce que c'était férié, etc. Donc, je n'ai pas eu les résultats tout de suite. Et on est allé le chercher avec mon mari. Et là, on a vu que j'étais enceinte avec la prise de sang. Et là, on était super contents, on n'y croyait pas. Donc, on a tout de suite pris rendez-vous chez la gynécologue. Et quand on est arrivé dans son cabinet, voilà, je lui ai dit, voilà, je suis enceinte. On a tout de suite fait une échographie. On n'a rien calculé du tout. On a tout de suite été faire une échographie. Et on a tous pleuré. On a tous pleuré. Moi, la gynécologue, on était tous très contents.
Oui. C'était la gynécologue qui t'avait suivie pour la première grossesse?
Oui, voilà. Qui avait donc son cabinet en ville et qui avait tout suivi, etc. Et du coup, voilà, on était tous très contents. Donc après, on a enclenché le suivi normal. Et à la différence, c'est que elle, normalement, elle faisait les échographies de trimestre. Mais du coup, pour là, elle préférait pas les faire et elle m'a envoyé directement à l'hôpital pour faire les échographies, T1, T2 et T3.
D'accord.
Voilà. Elle me faisait une échographie tous les mois. Je pense que c'était plus pour me rassurer, moi. Donc, on faisait ça. Par exemple, c'est avec elle qu'on a appris le sexe du bébé. Mmh. Et elle me faisait mes ordonnances pour les prises de sang et tout ça. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est que on n'a pas attendu... Enfin, on a fait le tri-test normal, mais on n'a pas spécialement attendu les résultats. On a directement fait la DPNI.
Ah, d'accord.
Donc, et la prise de sang, en fait, à cette époque, ça commençait à rentrer dans le processus. Et comme nous, on avait eu des antécédents de trisomie, on a pu avoir la DPNI intégralement remboursée et prise en charge.
D'accord.
On l'a fait à l'hôpital, la DPNI, en fait, le jour où on a fait l'échographie du premier trimestre, on a fait la DPNI en même temps.
Et alors, comment t'as vécu, toi, ces débuts de grossesse?
Très, très, très stressant. Alors déjà, du coup, j'avais tout le premier trimestre à vivre, alors j'avais peur de faire une fausse couche. Donc, dès que j'allais aux toilettes, je vérifiais qu'il n'y avait rien dans ma culotte. J'avais même demandé à la gynéco à partir de quelle date on est sûr qu'on peut plus faire de fausses couches, etc. Et puis après, il y avait les résultats, attendre les résultats pour la trisomie.
Ah oui.
Le fait de retourner aussi à l'hôpital faire les échographies. Donc, c'était le même endroit, le même hôpital. Et à chaque fois qu'on y allait, notre crainte, c'était de retomber dans la salle d'échographie où on avait fait l'IMG.
Ah oui.
À chaque fois, heureusement, on n'a pas été dedans, mais sinon, on aurait demandé à changer de salle. Et donc, là-bas, donc, ils avaient notre dossier, évidemment. Donc, du coup, la première échographie, on l'a même fait avec le professeur. C'est lui qui a fait l'échographie, tu vois, pour être sûr que tout allait bien. Et voilà. Donc là, on a tout fait. Il nous a dit que lui, à l'échographie, tout allait bien. La clarté nucale était très, très fine. Et puis après, la DPNI nous a confirmé qu'il n'y avait pas de soucis.
Tu as pu être moins stressée à partir du moment où tu as eu les résultats ou pas?
Non, enfin, on est toujours resté stressée parce que du coup, entre-temps, moi, j'avais discuté avec plein d'autres mamans qui avaient perdu leur enfant Et du coup, bah, tu es dans un monde où tu sais qu'il peut se passer un milliard de choses. Et du coup, je restais stressée. Et de toute façon, tant qu'on n'avait pas non plus passé le stade de grossesse où ça s'était arrêté, j'étais pas très, très bien. En fait, à chaque grosse échographie, j'avais peur qu'on me dise « Ah bah, il y a tel souci. » Et d'ailleurs, on n'a pas dit que c'était enceinte.
Ah oui.
Non, on a. Alors, on l'a dit à nos familles à la fin du premier trimestre, une fois qu'on a eu les résultats pour les trisomies. Et par contre, nos amis, on l'a très très peu dit, vraiment pas à grand monde. Et on l'a dit une fois qu'on avait fini le deuxième trimestre.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'est sûr qu'il y a des personnes qui nous en ont un peu voulu, mais on n'était juste pas capable, en fait. On peut s'imaginer que c'est tellement déjà dur de devoir annoncer que tu as perdu. Ton enfant, avec toutes les incompréhensions que les gens ont autour de ça. Et alors, si là, en plus, il devait se repasser quelque chose, c'était... Enfin, moi, j'avais l'impression de vivre un peu recluse. Je sortais pas. Ça fait beaucoup de mal à voir des femmes enceintes, même si moi-même, j'étais de nouveau enceinte.
Ah oui.
Et avant même de retomber enceinte, c'était horrible. Parce que dès que je voyais quelqu'un avec un petit bébé ou une femme qui était enceinte, j'étais jalouse. Je me disais, mais pourquoi elle et pas moi? Puis, tout un sentiment aussi d'innocence qui est parti. Ce sera plus jamais la première grossesse.
Ouais.
Donc, on a eu beaucoup de mal à faire des achats également. On les avait relancés à la fin.
Ouais.
Et vraiment, le strict minimum. Hein, on a fait juste ce qu'il y avait sur la liste de valises maternité. Parce que si jamais il se repassait quelque chose, c'est tellement dur de devoir se séparer des affaires que du coup, c'était le strict minimum. Et par contre, on a eu un suivi très enveloppant tout de même, parce qu'entre les rendez-vous tous les mois chez la gynéco, après les rendez-vous avec la sage-femme pour préparer l'accouchement, ça, c'est des rendez-vous que j'avais pas fait pour la première grossesse, parce que ça s'était arrêté au moment où j'aurais dû les commencer.
Ouais.
Et là, elle a été très gentille. Donc, j'avais repris la même sage-femme. Et puis, elle a accepté qu'on soit que tous les deux. Moi, je ne voulais pas être avec d'autres mamans. Et puis, il y avait des rendez-vous de préparation que je ne voulais pas faire. Donc, du coup, on ne les a pas fait. On a fait un peu... Je ne voulais pas faire, par exemple, l'accouchement et compagnie. Donc, du coup, on a passé. On a fait la sophrologie.
D'accord.
Et on a essayé, par contre, de mettre des choses en place pour essayer de se calmer un peu, aussi de se déstresser. Donc déjà, moi, j'ai tout de suite, on a parlé à notre bébé dès le début. J'avais le suivi avec la psychologue. Et après, on a aussi commencé à faire de l'autonomie. Et donc là, on était tous les trois avec elle. Et elle faisait passer les mains sur le ventre, etc., pour créer du lien. Bon, on n'avait pas besoin de ça, mais on arrivait à en créer du lien. Mais ça nous a aidé aussi de nouveau raconter cette histoire à quelqu'un d'autre et qu'elle, elle fasse ce lien entre notre histoire, nous, le nouveau bébé. Et alors après, c'est un peu subtil, mais quelque chose qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est que ce soit une petite fille et pas de nouveau un petit garçon.
Ouais.
Donc nous, on avait vraiment besoin de savoir ce que c'était, parce que si ça avait été de nouveau un petit garçon, je pense qu'on aurait dû avoir un autre travail à faire sur nous pour pas projeter sur ce nouveau bébé. Et là, c'était une petite fille. Donc, d'un côté, voilà, tout était différent. C'était quand même plus pareil.
Ouais. Et alors, comment t'appréhendes l'accouchement?
Alors, l'accouchement, écoute, j'avais aucune appréhension de rien du tout. Par contre, je ne voulais pas la péridurale, parce que je l'avais eu pour lui, donc je ne voulais pas. Enfin, en tout cas, autant faire que peu. Je ne voulais pas être dans la salle où j'avais accouché pour lui. Donc ça, c'est pareil, hein, j'avais retenu le numéro de la salle. Et donc, à l'hôpital, quand on avait fait le dossier, je leur avais fait écrire.
D'accord.
Et après, je n'avais aucun projet ou quoi que ce soit. Le but, c'était seulement qu'elle naisse.
Ouais.
Et je leur avais dit, vous me faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Du moment où tout le monde s'est mis en bonne santé à la fin, c'est le principal. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de chance. Quand je suis arrivée pour accoucher, il n'y avait personne. Donc, j'ai eu des contractions à la maison. Bah, du coup, je savais déjà ce que c'était. Je savais que c'était ce jour-là. Elle a très bien fait les choses. Elle est arrivée le jour où son papa était en congé. Elle avait aussi des congés exprès pour ça. Et donc, timing parfait. Et donc, j'ai réussi à faire sans la péridurale. Et comme il n'y avait personne, la sage-femme, elle est restée avec moi quasiment tout le temps.
Ah oui.
Et puis, elles m'ont laissé gérer comme j'avais envie. J'ai pu prendre un bain, mais ça m'a paniqué. Je suis vite sortie de là. Ce qui me soulageait beaucoup, c'était d'être sur le gros ballon.
Mmh.
Et puis après, de crier. Parce que ça faisait mal. Mais non, ça allait. En fait, dès qu'il y avait une contraction, je me disais, ça me rapproche d'elle, ça va aller. Et donc, avec l'autonomie aussi, on avait quand même appris quelques techniques pour gérer la douleur qui m'ont vraiment été bien utiles. Honnêtement, c'est pas les contractions où j'ai le pire souvenir. C'est plutôt vraiment le moment où il fallait pousser et sortir le bébé parce que c'était un gros bébé. Et donc, je l'ai bien senti passer. Et donc, non, ça a été. Et par contre, on a trouvé qu'il y avait un très, très beau... petit signe un peu du destin, c'est que la sage-femme qui m'a accouchée pour elle avait le même prénom que la sage-femme qui m'avait accouchée pour mon garçon.
Ah oui.
C'était pas les mêmes, mais j'avais le même prénom, alors on s'est dit c'est forcément un signe et ça veut dire que ça va aller. Et donc non, l'accouchement ça s'est bien passé. J'ai mordu mon mari apparemment, moi j'en suis bien pas. J'ai mordu tellement ça avait mal. Non, j'ai réussi à faire sans péridurale en hurlant tout ce que je pouvais. En plus, elle me disait, mais si, allez-y, c'est quand vous criez que ça, que vous poussez le mieux, etc. Et après, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, les pauvres mamans qui doivent être dans les autres salles. C'est bon. Voilà, elle est arrivée toute rose, toute potinée. C'était un gros bébé qui faisait 3,8 kg. Hein. Donc, voilà, et puis, alors elle n'a pas pleuré comme je m'y attendais, mais comme on me l'a tout de suite posée sur moi, enfin, c'était, voilà, elle était là, et elle respirait, et elle était toute rose, et c'était juste un moment, alors pas l'extase ou je ne sais quoi, mais c'était un peu hors du temps, j'avais du mal à réaliser qu'elle était enfin là. Donc, on en a bien profité. Elle est restée longtemps contre moi. Après, mon mari, il a pu couper le cordon. Il l'avait pas fait pour notre petit garçon. Donc, il a pu couper le cordon. Ensuite, c'est lui qui l'a pris un peu en peau à peau. Parce que moi, j'ai eu une bonne déchirure et donc, ça allait me recoudre. Et du coup, pour ce moment-là, j'avais pas envie qu'elle soit sur moi. Parce que j'avais fait tout ça sans péridurale et à ce moment-là, ils ont voulu m'en remettre une pour m'anesthésier, pour pas sentir. J'ai dit, ah non, vous faites pas ça, allez-y, hein, parce que là, j'ai passé tout ça pour avoir maintenant une péridurale, quoi. Donc, je crois qu'elles m'ont vidé la bouteille d'anesthésiant local dessus, mais honnêtement, j'ai rien fait. J'ai jamais rien fait. Je voyais mon bébé, là, j'étais tellement shootée aux hormones que... Et puis après, ils l'ont emmenée, elle, tu sais, juste derrière moi pour faire les petits soins. Et là, j'entendais l'auxiliaire de puériculture, elle disait « ça, c'est bon, tout va bien, ça, ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien. » Et d'entendre tous ces « tout va bien, tout va bien, tout va bien », là, j'ai fondu en larmes.
Ah oui.
Ouais, à là, de savoir que c'était bon, tout allait bien, tout était ok. C'était un bébé tout à fait en bonne santé. Là, j'ai vraiment pleuré de soulagement et puis ça y est, quoi, elle était enfin là. Donc voilà, ça c'était vraiment un gros moment. Et puis après, on est remonté en chambre. Voilà, après, on a passé le séjour à la maternité. On est resté 5 jours. Parce que du coup, c'était quand même. Alors, ça, c'est le seul moment que moi j'ai moins aimé. Parce que nous, on avait un peu l'ambivalence de dire elle est là, on était très heureux. Mais en même temps, tout ce qu'on faisait avec elle, tous les gestes, eh ben, on aurait déjà dû savoir les faire.
Mmh.
Et donc, ça, pour nous, c'était assez compliqué à gérer. Donc, on pleurait pas mal. Après, avec mon mari, on a toujours parlé. depuis le début de tout ça. On ne s'est jamais caché nos émotions ou quoi que ce soit. Donc voilà, et puis bah, du coup, c'est vrai que les, je sais pas si c'est des auxiliaires ou des sages-femmes ou quoi que ce soit, je m'en souviens, une, ah, mais vous pleurez déjà, et pourtant, c'était encore le début de l'île, ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça, et puis bah, tu sais, elles viennent, c'est tout le temps une personne différente, avec tout le temps un conseil différent. Ça, je l'ai mal vécu. Donc j'avais hâte qu'on rentre à la maison et qu'on commence du coup. À être tous les trois. Et après, hein, quand on est rentré, là, on a vu bah, notre sage-femme à nous. Et là, ça fait vraiment du bien d'avoir un seul discours, en fait, à qui se tenir. Et après, on a fait un peu à notre sauce. Et après, notre grande question, c'était comment on va faire pour créer un peu du lien entre lui et elle, sachant que lui, il n'est pas là. Enfin, pour un enfant, c'est totalement...
abstrait.
Ouais, c'est abstrait. Hein. Pendant la grossesse, on lui a toujours parlé. Quand elle est née aussi, on lui a re-raconté toute l'histoire. On est allé aussi chez la psychologue, du coup, après sa naissance, pour re-raconter. Et puis ensuite, en fait, petit à petit, alors pas quand elle était nourrisson, mais quand elle était un peu plus grande, par exemple, tu vois, là, quand on fait le sapin de Noël, au moment de Noël, et ben, ils ont chacun leur petite décoration dans l'arbre. Donc, du coup, on lui dit, tiens, regarde, ça, c'est la décoration de ton grand frère, ça, c'est la sienne. Alors, on lui dit qu'il est dans les étoiles. On lui explique et elle comprend très, très bien. J'ai aussi emprunté une ou deux fois des petits livres à la médiathèque par rapport à ça. Et donc, nous, on lui a toujours expliqué comme ça. Pour le moment, elle ne connaît pas les détails, mais elle sait qu'elle a un grand frère dans les étoiles. Et ce qu'on aime beaucoup faire avec elle, c'est le matin ou le soir, quand le ciel est tout rouge ou rose, on regarde le ciel et, ensemble, on se dit « Ah, regarde, il fait de la peinture dans le ciel. » Et au début, c'était moi qui lui disais « Regarde, il fait de la peinture dans le ciel. » Ça veut dire qu'il est là, là-haut, il veille sur nous. Et maintenant, c'est elle, des fois, elle va à la fenêtre ou quand on est dehors, et elle me dit « Maman, regarde les nuages. » Il fait de la peinture dans le ciel. Voilà. Et puis, surtout aussi, ce qu'on fait, donc c'est jamais tabou, on en parle tous les jours, enfin, quand il y a besoin, on en parle encore au quotidien de lui. Et puis, on a ses empreintes, on a sa photo qui sont affichées, on a un petit album photo aussi, donc avec des photos de ma grossesse et des photos de lui. Et ça, c'est à sa disposition. Elle a le droit de les regarder. On a le droit de les regarder ensemble. Voilà. Alors, elle a du mal sur le fait que c'est son grand frère, parce que forcément, sur les photos, c'est un bébé. Mais voilà, là, de plus en plus. Et elle le dit aussi à l'école. Elle dit à ses copains, j'ai un grand frère dans les étoiles. Donc ça, je ne sais pas si les enfants ou si les maîtresses, je pense qu'elles ne doivent pas trop capter. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'aille leur en parler. Mais non, c'est ça, comme ils ont tous des grands frères ou des petits frères et des petites sœurs, et elle dit, mais moi, j'ai un grand frère dans les étoiles. Mmh. Donc, on fait comme ça, et je pense que pour le moment, elle, ça lui convient, nous aussi, et puis quand elle sera vraiment beaucoup plus grande, et ben, on lui racontera au fur et à mesure, avec les détails qu'elle est capable de comprendre.
Ouais. C'est important pour toi de le faire exister encore, enfin, il existe, mais au quotidien.
Oui, parce que moi, ma grande crainte au début, c'était de l'oublier.
Ouais.
Et en fait, on n'oublie jamais. On ne pourra jamais l'oublier. Il sera toujours là. Et alors, et moi, j'y pense vraiment tous les jours. Je pense tous les jours à lui. Et ça, c'est vraiment, je sais que c'est des craintes qui sont énormément partagées. Et non, on ne pourra jamais oublier son propre enfant. Et puis, il y a plein de petites choses qu'on sait, même... nous, qu'on fait aussi pour faire vivre un peu au quotidien. Tu vois, on a des petits bouts dans notre entrée. Et bien, il y a mon mari, moi, ma fille et mon fils. On a aussi fait des petites choses pour nous. On s'est fait tatouer. Moi, j'ai une petite médaille avec son prénom, sa date, que je porte tous les jours. Que je porte tout le temps, que j'enlève jamais. Et puis voilà, on a sa photo, ses empreintes, on en parle, on y pense tous les jours. On pense tous les jours à lui, que ce soit à mon mari, voir, je danse tous les jours. Mmh. Et voilà, et nous, on n'oublie jamais. Et après, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Par exemple, le premier anniversaire, c'était très difficile. Après, l'année d'après, ça a été. Là, moi, ce qui a été très dur pour moi, c'était l'année où il aurait eu 3 ans, parce qu'il aurait dû rentrer à l'école.
Oui.
Et là, c'était vraiment très, très dur pour moi. Là, cette année, tu vois, ça va mieux. Et c'est des vagues comme ça qui, au début, étaient très, très, très fortes tout le temps. Et au fur et à mesure, elles sont moins fortes, c'est plus calme, mais il y a des moments où c'est très fort. Tout ce qui est un peu fête des mères aussi, fête un peu de fin d'année, c'est un petit peu difficile de se dire il aurait dû être avec nous, en fait. Comment ça aurait fait s'il était là, plus elle, comment on aurait interagi comme ça à 4. Mais après, voilà, en même temps... il s'est passé ce qui s'est passé, et peut-être qu'on n'aurait pas eu notre petite fille. C'est comme ça. Et on essaye, nous, de faire vivre au quotidien pour. Parce que c'est notre fils et qu'il fait partie de notre famille, en fait, pour toujours.
Est-ce que toi, 4 ans plus tard, tu as toujours un suivi psychologique?
Non, j'ai arrêté. J'ai arrêté après la grossesse de ma fille. J'y suis allée peut-être 1 ou 2 fois et après j'ai arrêté. C'est très libre, donc j'y vais si j'en ai le besoin. Donc pour le moment, j'ai plus besoin d'y aller. Ce qu'on fait entre nous me suffit. Et puis il y a toujours des personnes de toute façon avec qui je peux en parler. J'en parle encore très très souvent avec ma sœur. Même elle, hein, des fois, elle m'envoie des photos du ciel. Elle me dit « Ah, c'est une petite pensée !» Voilà, ce genre de choses. J'ai des amis aussi avec qui j'en parle. Ce qui me fait aussi chaud au cœur, c'est que des fois, il y a des très bonnes amies. Quand elles m'envoient un message, à la fin, elles mettent tout le temps « bisous à vous quatre ». Tu vois, elles y pensent. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et non, du coup, maintenant, j'ai plus besoin. Après, si j'ai de nouveau besoin un jour, je sais que je retournerai chez la psychologue. Ça, il n'y a pas de soucis sur ça, mais pour le moment, ça va. On n'est plus forcément devant. Il y aura peut-être dans d'autres étapes plus tard, à des anniversaires clés, tu sais, des dates un peu clés, des âges comme ça, un peu charnières peut-être.
Et tu parlais de la réaction des gens. Est-ce que tu as eu des remarques ou des réactions contre votre décision, en fait?
Alors, contre la décision, non. Mais plutôt dans l'incompréhension de notre deuil, en fait. Des personnes qui... Par exemple, on m'a dit « Ah, mais tu as dû te donner un prénom. » Voilà. Alors que quand tu es enceinte, les gens, c'est des choses qu'ils veulent absolument savoir. C'est quoi? Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Comment vous allez l'appeler? Et puis là, du moment où il est né sans vie, « Ah bon, il a fallu me donner un prénom. Ah bon, vous avez fait des obstacles. » Voilà. Et ce genre de choses, c'était très difficile. Et puis bah, après, une fois que c'était passé, les obstacles, etc., bah, de l'incompréhension qu'on soit toujours triste, que je pleure toujours, que je pleure en parlant, etc. Alors que tu vois, 4 ans après, bah, j'en parle encore en pleurant. Et donc ça, c'est des personnes on a mis de côté. Ou alors, il y a des rapports avec des personnes qui se sont un peu plus distendues parce que je pense qu'ils ne savaient pas comment réagir à notre peine. Et ce que je comprends aussi. Alors après, je comprends aussi, dans un certain sens, je comprends les remarques des gens parce que une grossesse, on a toujours l'image que ça doit absolument très, très bien se passer et que ça peut très bien se passer. Et on n'a pas l'image que ça peut mal se terminer. Et je pense que ça renvoie les gens à leur propre peur de la mort.
Mmh.
Donc, le fait que ce soit un bébé qui meurt, je pense que c'est incompréhensible pour les gens. Et honnêtement, j'ai du soutien dans ma famille, etc. Mais là où on est vraiment compris, c'est parmi les personnes et les couples qui ont vécu la même chose que nous. Parce que là, c'est vraiment les mêmes sentiments. Et on se rend compte qu'on a tous vécu pareil, les mêmes types de remarques. de personnes ou quoi que ce soit. Et toi, même aujourd'hui, quand de temps en temps, je dis à des personnes qui ne savent pas du tout que j'ai un fils avant ma fille et que je dis, voilà, j'ai eu un petit garçon avant, c'est décédé, donc je ne rentre pas trop dans les détails, les gens, ils ont tout de suite une réaction de « Ah, je ne savais pas, ça, oui, mais je ne pouvais pas le savoir. » En même temps, je n'ai pas été sur mon front. Je ne vais pas non plus crier sur les toits, mais petit à petit, par contre, tu vois, j'arrive à en parler et à dire si, si, ça existe. Voilà, c'est un petit garçon qui est décédé. Et ce n'est pas un tabou. Et voilà, après, c'est sûr que ce n'est pas non plus quelque chose que je vais aller raconter au premier ministre. Mais oui, les remarques des personnes, on a pris de la distance. Et puis après, pour ceux qui étaient le plus proche, on s'est dit tant pis. Et c'est un moment aussi, on est tellement vulnérable qu'il faut qu'on se protège. Donc, c'était ça, se protéger, on a coupé des liens. Et au final, ça fait du tri, hein, dans les amis, que les plus proches qui restent.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité?
Je pense qu'avec toute cette histoire, je ne suis pas la maman que j'aurais pensé être avec ma fille. C'est sûr que j'ai un côté beaucoup plus maman protectrice.
Ouais.
Même si j'essaie là maintenant de me détacher quand même. Et ça a tout changé parce que moi, ça a rebalancé toute ma vision même de la vie, d'avoir perdu mon petit garçon, puis ma petite fille. Je vois des choses totalement différemment maintenant pour plein de sujets, mais pas juste la maternité. Et après, oui, vis-à-vis d'elle, je pense que je suis une maman un peu... j'en disais que ça aille bien. Qu'elle aille bien. Donc, on se détache petit à petit. Mais après, quand on explique... les gens comprennent aussi pourquoi on a ce type de réaction, des fois, vis-à-vis d'elle, c'est normal. Hein.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman strasbourgeoise?
C'est une maman qui se déplace tout le temps à vélo avec sa petite charrette derrière elle et qui profite des parcs et des petits cafés avec sa fille.
Alors justement, quel est ton endroit kids-friendly préféré à Strasbourg?
Alors maintenant qu'elle est un peu plus grande, il y a beaucoup d'endroits où je pourrais l'emmener faire des animations. Mais du coup, pour le moment, c'est vraiment d'aller au parc ou d'aller à la bibliothèque. Et après, on a notre petit salon de thé préféré où on va se prendre des petits goûters. Et on est tellement habitués que maintenant, elle, j'ai même plus besoin de commander pour elle. On lui apporte directement son petit gâteau.
Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle le Nomad Café.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Alors, en famille, on a prévu cet été, si la situation le permet, de partir en vacances au bord de mer. C'est la première fois qu'on partirait vraiment depuis qu'elle est là. Parce que pour le moment, on a toujours privilégié d'aller voir nos familles avec elle. Et donc là, ce serait nos premières vraies vacances à trois. Et pour moi, j'ai une journée par semaine où je ne travaille pas. Et du coup, pour le moment, elle est avec moi l'après-midi, mais bientôt, elle va aller complètement à l'école. Et j'aimerais vraiment prendre ce temps pour me mettre à la couture. J'avais commencé des cours de couture qui ont été arrêtés à cause de la crise. Et j'aimerais m'y remettre pour ma journée, à moi. Voilà.
Merci beaucoup, Roxane.
Merci à toi d'avoir pu enregistrer tout ça. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir raconter notre histoire et j'espère que ça aidera des mamans et des papas qui vivent la même chose que nous, qui sont en train de vivre ou qui l'ont déjà vécu.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Small details are big surfaces. tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.